Bonjour à tous et merci d'être fidèles à Radio Courtoisie. Dans la solitude épurée du studio, on peine toujours un peu à imaginer où est l'auditeur qui nous écoute, chez lui, en voiture, dans un train, que sais-je encore. C'est un peu vertigineux en réalité de penser à l'honneur que fait l'auditeur en lui consacrant un peu de son temps à celui qui prétend vouloir lui faire partager quelque chose. Et quoi que ce soit d'ailleurs, une émotion, un peu de savoir, un instant de liberté, de légèreté ou de profondeur, qui sait. En tout cas, vive la radio qui permet aux auditeurs de créer leurs propres images. Vous le savez peut-être, cette émission s'intitule « Les neiges du Kilimandjaro ». Aucun rapport avec la chanson des années 60. Non, j'ai voulu rendre hommage à mon auteur favori, Hemingway, auteur de la nouvelle du même titre où figure en exergue la phrase que voici.
« Le Kilimandjaro, que les neiges revêtent d'un blanc manteau, est un volcan haut de 5893 mètres. On prétend que c'est la plus haute montagne de l'Afrique. Sur le flanc ouest, près du sommet, se trouve la carcasse congelée et desséchée d'un léopard. Personne n'a su expliquer ce que le léopard cherchait à cette altitude. »
Phrase qui fait rêver, phrase fascinante d'Ernest Hemingway. En effet, qu'aller chercher le léopard? Qu'allons-nous chercher, nous qui nous dépassons au sens propre, au sens figuré? Pourquoi prenons-nous des risques? Pourquoi faisons-nous des choses qui ne sont pas prévues au départ? Pourquoi tentons-nous des choses étonnantes? Alors plus que jamais, aujourd'hui, cette émission va mériter son titre ambitieux, puisque nous allons parler de littérature de voyage, celle qui nous entraîne en Patagonie, à Tombouctou ou à Douchambé. Quand on parle de littérature, en France, le nom de Goncourt revient très vite. On pense évidemment plus aux prix qu'aux frères qui l'ont voulu et institué, post-mortem, Edmond et Jules de Goncourt. Écoutons un peu ces persifleurs. J'ai longtemps cru qu'un homme de lettres, c'était ça, un monsieur en voyage, écrivant sur une table d'auberge en buvant du champagne. Pas sûr du tout que ceux dont j'ai envie de vous parler répondent à cette définition, même si, vous le verrez, quelques-uns d'entre eux ont obtenu la récompense suprême, le Goncourt. Pour lancer l'émission, je vous propose d'écouter le tout début d'un livre culte pour les amateurs du genre, « L'usage du monde » de Nicolas Bouvier.
Nous avions 2 ans devant nous et de l'argent pour 4 mois. Le programme était vague, mais dans de pareilles affaires, l'essentiel est de partir. C'est la contemplation silencieuse des atlas, à plat ventre sur le tapis entre 10 et 13 ans, qui donne ainsi l'envie de tout planter là. Songer à des régions comme le Banat, la Caspienne, le Cachemire, aux musiques qui y résonnent, aux regards qu'on y croise, aux idées qui vous y attendent. Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons, et on en trouve qui ne valent rien. La vérité, c'est qu'on ne saurait dire ce qui vous pousse. Quelque chose en vous grandit et détache les amarres, jusqu'au jour où, pas trop sûr de soi, on s'en va pour de bon. Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait.
Ce texte est lu par François-Henri Désérable, lui-même un jeune auteur remarquable, un certain monsieur Piquelny sur Romain Gary, Tu montreras ma tête au peuple sur Danton et d'autres révolutionnaires, un auteur formidable que je vous conseille vraiment attentivement. Et l'émission d'aujourd'hui va donc choisir de parler d'écrivains qui ont voyagé et qui ont écrit autour de l'Indochine et l'Asie. Les auteurs que j'ai choisis, tous en effet, ont de manière intense ou ténue, régulière ou ponctuelle, un lien avec cette région du monde qu'on appelait l'Indochine française. Aujourd'hui, 3 pays. Vietnam, Cambodge, Laos. Mais à l'époque, une seule entité. J'ai pris quelques libertés, pardonnez-moi, en y incluant des auteurs qui, sans être venus ou avoir évoqué précisément l'Indochine, ont en tout cas foulé le continent asiatique. Toute liste est subjective, celle-ci n'échappe pas à la règle. Mais en revanche, j'ai cherché, pour passer d'un auteur à l'autre, le lien, la coïncidence, le point commun, pour qu'elle soit en tout cas bien cohérente. On y est ? Allez ! Pour commencer cette galerie de portraits, j'ai envie d'évoquer l'ancêtre des voyageurs européens, l'auteur du premier grand récit de voyage, le Vénitien Marco Polo. En réalité, il ne fut pas le premier européen, non. Arrivé à la cour du grand empereur mongol Kubilai Khan, le petit-fils de Gengis Khan. Mais il est le premier à en faire le récit dans un livre connu sous 2 titres, Le Devisement du Monde ou Le Livre des Merveilles. Ces merveilles, ce sont celles de l'Empire du Khan. Rendez-vous compte que quand Marco, 19 ans, arrive à la cour de Kubilai en 1274 avec son père et son oncle, Niccolo Polo et Matteo Polo, l'Empire du Khan comprend bien sûr la Mongolie, son berceau, mais aussi la plus grande part de la Chine et va jusqu'à l'Irak, la Russie du Sud en passant par la Corée, l'Iran, l'Arménie et bien d'autres territoires. Marco, au départ simple négociant, saura gagner la confiance du Khan qu'il emploiera à diverses missions dans de nombreuses régions de Chine. Il surveille les collecteurs d'impôts, il examine la Grande Muraille, il remplace un gouverneur local, il fait rapport de tout au Khan. Messire Polo, comme on l'appelle désormais, se rend aussi au Tibet. Et par voie de mer, s'il n'aborde pas les côtes de Sipango, c'est l'ancien nom du Japon, il navigue vers les Indes, la Birmanie, Sumatra et le Vietnam, qui pendant 1000 ans avait été plus ou moins possession chinoise, mais qui, au moment de l'ambassade de Marco Polo, était indépendant. À cette époque, la région entière s'appelait l'Annam, qui signifie « Sud-Pacifié ». Émissaire du Khan, ambassadeur du pape, Marco jouit des deux statuts et fait vraiment le lien entre les deux mondes.
Tu te nommes Polo ?
Marco Polo.
Connais-tu Niccolo Polo ?
Je suis son fils.
Agenouille-toi pour parler.
T'es pas un prisonnier, il est mon hôte. Parle-moi un peu de ton père.
Est-ce... Seriez-vous Kublai Khan ?
Où se trouve ton père ?
Je voudrais le savoir, Majesté. Les Mongols qui devaient nous guider après Samarcande nous ont attaqués.
Vous attaquez, pourquoi ?
Ce n'étaient pas les premiers qui nous barraient la route. Beaucoup ont essayé. Mon père et mon oncle ont été faits prisonniers. J'ai réussi à m'échapper, mais auparavant, mon père m'avait confié une mission sacrée, un message que le pape vous adresse. J'avais juré de vous le transmettre, même au péril de ma vie. L'avenir de l'humanité en dépend, car c'est un message de paix. Et les deux Templiers que sa sainteté vous envoyait ont perdu la vie avant d'avoir atteint Samarcande. Il était capital que l'un d'entre nous parvienne jusqu'à vous.
Ici, on entend pour conter des histoires. Il ne lui manque plus qu'un luth.
Majesté, je me sens indigne d'être auprès de vous le messager du pape. Mais vous aviez confié à mon père un message qui commençait par ces mots « Magnitudinem incelis ».
« Pacem interis ».
Et sa sainteté vous répond du fond du cœur et de l'âme « Paix à tous les hommes de la terre ».
Marco Polo, un film assez étonnant, un peu kitsch, du français Denis de la Patellière, qui avait réalisé également Un taxi pour Tobrouk, par exemple. Distribution incroyable avec Anthony Quinn, pas très crédible, dans le rôle de Kublai Khan, avec Orson Welles, qu'on aperçoit un instant, avec Robert Hossein, le fils vicieux du Khan, et Omar Sharif, dans un rôle subalterne, et le jeune allemand Horst Buchholz, qui joue Marco Polo. C'est le premier de nos écrivains qui ont foulé le continent asiatique que nous invoquons aujourd'hui dans les neiges du Kilimandjaro. Donc Polo, Marco. Quand il regagne Venise en 1295, 14 années, pardon, 24, se sont écoulées 24 années. De ces aventures incroyables, rien peut-être ne serait resté, le temps en aurait englouti le souvenir. Sans une fortune de mer. Un an à peine après son retour, il participe à la guerre contre Gênes et il est fait prisonnier. Paradoxe étonnant, 20 ans de voyage incroyable dans les steppes de l'Asie, supposé très dangereuse, aucun dommage, et brusquement, à peine revenu en Europe, l'étroitesse d'une cellule. Il confie ses souvenirs à son compagnon de geôle, qui les note, incrédule puis admiratif, les publie et le succès est immédiat. Enfin, relativisons, on a quand même 150 ans avant que Gutenberg n'invente l'imprimerie. Mais les copies circulent. La précision de l'observation, géographique et ethnologique, impressionne les lecteurs. Évidemment, c'est un peu décevant pour nous car ce n'est pas un récit échevelé, ce n'est pas picaresque, il n'y a pas de sensationnel, mais plutôt une sorte d'atlas, une sorte de guide. Pour être honnête, j'ai un peu menti au début, car un autre voyageur européen, avant lui, avait publié un récit de voyage vers l'Asie. L'histoire a oublié ce franciscain, Jean du Plan Carpin. Mais pourtant, il avait publié un livre, lui, sauf qu'il l'avait fait en latin, sous le titre « Historia Mongolorum », alors que le livre des merveilles de Marco Polo le sera en français, ou plutôt en dialecte franco-vénitien, ça existait à l'époque. Par exemple, pour vous donner l'impact de ce livre, quand Vasco de Gama, ou encore plus Christophe Colomb, qui voulait rejoindre la Chine, Cathay en passant par l'Ouest, embarquèrent pour leurs aventures qui ont changé le monde deux siècles après Marco Polo, ils en emportèrent chacun un exemplaire. Hommage à Marco Polo. À propos de Venise, j'ai envie de vous parler d'un auteur vénitien, Hugo Pratt. Certes, un auteur de bande dessinée, mais pour moi, un écrivain. Alors, il n'est pas allé personnellement en Asie, mais quant au Maltais, son héros charismatique et bourlingueur a sillonné le monde entier, comme Pratt ou presque. Dans l'album « Corto en Sibérie », situé pendant la Révolution d'Octobre et la guerre civile, il se rapproche de la civilisation asiatique grâce à de jeunes combattantes, membres d'une société secrète, les Lanternes Magiques.
Hé, hey, Corto Maltese, tu dors ?
Non, je pensais à Venise et à Bouche Dorée. Tu disais que les jeunes filles n'épousent pas les aventuriers ? Eh bien, tant pis. Ça veut dire que je ne me marierai jamais.
Tu as toujours envie de plaisanter, Corto. Moi, je ne plaisante pas. Nous vivons une époque difficile. Les Russes se battent au nord, les Japonais à l'est. Les sectes religieuses deviennent des associations politiques. Elles s'allient contre les étrangers, le lotus blanc avec les...
Et toi, que fais-tu, Longueville ?
Le triangle rouge attendra la parole du losange noir et la transmettra au carré rose qui en informera le rectangle blanc et le cercle vert.
On se croirait un cours de géométrie.
Corto, Corto, quand seras-tu sérieux ?
Je le suis, Longueville. Comment me trouves-tu ?
Splendide. Les jeunes filles de Hong Kong vont être folles de toi.
frère de la nuit te salue et te remercie.
La triade veillera sur toi, Corto Maltese.
J'ai eu la chance de passer quelques jours chez Hugo Pratt pour le tournage d'un court-métrage que je réalisais sur lui. À l'époque, il vivait à Lausanne et ce séjour a été vraiment captivant. Pratt ne voulait jamais adopter une posture héroïque. Il pratiquait beaucoup l'autodérision. Ainsi disait-il par exemple, « On me demande mon avis sur tout, mais moi je veux pouvoir me tromper avec élégance, tranquillement, sans devoir faire un examen de conscience parce que j'ai créé Corto Maltese. D'ailleurs, il commence un peu à me fatiguer, ce Corto Maltese. » De même, sa biographie officielle raconte qu'il aurait, à 15 ans, aidé les soldats britanniques à trouver leur chemin dans la lagune de Venise. Il m'avait précisé, ironiquement, « Mais non, c'est juste physique. J'ai préféré avancer avec les Alliés que reculer avec les Allemands. » À la fin de la guerre, il avait tenté de s'engager dans la Légion étrangère et avait fugué en direction de Vintimille, le plus proche bureau de recrutement. Pratt a menti sur son âge et son nom, mais l'officier français Goguenard lui répondit « Allons, ne dis pas de bêtises, tu t'appelles Hugo Pratt, tu es mineur, ton père a été tué pendant la guerre. Ta mère a deviné ton intention, elle nous a appelés, allez, rentre chez toi. » Et c'est donc ainsi, racontait Pratt en souriant, que ne pouvant pas devenir légionnaire, je me suis résigné à devenir dessinateur. Deux immenses bibliothèques dans plusieurs langues, sur toutes sortes de sujets, allant des détails d'uniformes chez les soldats sénégalais de l'armée française, aux positions qu'adopte le tigre avant l'attaque, occupait dans sa maison une place absolument centrale. Il y puisait toute la documentation qui rend son œuvre, bien que très poétique, très onirique, parfois même métaphysique sur le fond, incroyablement réaliste dans ses détails. Vraiment, de ma vie, je n'ai jamais vu autant de livres chez qui que ce soit. Dans un autre album, La jeunesse de Corto, il assiste à la défaite russe de Port Arthur contre l'armée impériale japonaise. Tiens, tiens, un camp retranché où les soldats européens sont assiégés et vaincus par une armée asiatique. Ça vous rappelle quelque chose ? Bien, bien fou. Dans cette aventure, il côtoie le jeune Jack London, envoyé spécial du San Francisco Examiner. London, c'est vrai, a couvert ce conflit. Il sera d'ailleurs expulsé pour un pugilat avec un Japonais. Et Hugo Pratt, qu'il admirait beaucoup, s'est fait plaisir à le mettre en présence de son héros de fiction. C'est une des rares incursions asiatiques de London, qui, on le sait, préféra le Grand Nord, où il participa à la ruée vers l'or dans le Yukon en 1898. Après un voyage éreintant, il y acheta même une concession d'ailleurs et prospecta assez peu. Il trouvera l'or malgré tout puisque ses deux livres les plus célèbres, L'appel de la forêt et Cro-Blanc, 1903 et 1906, y sont situés. Deux destins de chiens opposés, l'un regagnant la civilisation, l'autre regagnant le monde sauvage. D'innombrables nouvelles également dont je recommande Construire un feu, Burning Daylight, etc. London est très prolifique, et la mer est aussi, comme ses modèles Melville ou Stevenson, une source d'inspiration, voire le loup des mers. Ancien sans le sou, Jack London écrit aussi d'autres romans, sociaux ou politiques. Par exemple, Martin Eden, l'ascension contrariée d'un écrivain venu du prolétariat. Le peuple de l'abîme, pour lequel il s'est mis en immersion, comme on dit maintenant, avec les miséreux des bas quartiers de Londres. Le talon de fer, qui raconte une révolution populaire en Amérique, réprimée férocement par les grands capitalistes et les ancêtres des fascistes. London est vraiment un socialiste, comme on dit à l'époque, ce qui n'empêchera pas de posséder des terres, un ranch, etc. La vie de Jack London est vraiment celle d'un bourlingueur au long cours, qui a sillonné les mers à bord de ses différents bateaux, entreprenant même en 1907 un tour du monde que sa santé lui fera écourter au bout d'un an. Et quel contraste dans cette brève existence. Pilleur d'huîtres dans la baie de San Francisco à 16 ans, emprisonné pour vagabondage à 18 ans et écrivain payé 1000 dollars annuels à 25. Alors, peu d'Asie, c'est vrai, mais, et c'est assez troublant, elle compte quand même symboliquement dans la vie et la carrière de ce grand arpenteur du monde. Il n'a que 17 ans lorsque sa première nouvelle est publiée dans le journal de San Francisco, Typhon au large du Japon, qui raconte sa propre expérience de mousse à bord d'une goélette chasseur de phoques. Et lorsque London meurt, à 40 ans à peine, de dysenterie et d'une crise d'urémie, il laisse derrière lui un début de roman qui s'intitule Eyes of Asia, les yeux de l'Asie. Je veux donc parler brièvement de Martin Eden. Dans ce roman, Eden, jeune écrivain, est très satisfait de son texte sur la mer. « C'est vraiment bien », se dit-il. « Seul Conrad pourrait rivaliser. » Très sûr de lui, ce garçon. Car pour beaucoup, Conrad est la référence absolue en termes de récits maritimes. Même si on ne peut pas le réduire à cela. Voire dueliste, formidable, avec un film d'ailleurs, de Ridley Scott qui en était tiré. De 20 ans l'aîné de Jack London, il a eu une vie moins échevelée, moins jouisseuse, si je peux dire, que le Californien. Mais quand même, assez surprenante. Son premier livre, La folie Almayer, il le publie à 38 ans, soit l'âge auquel London écrit lui son dernier. Avant cela, il était officier dans la marine marchande britannique. Pourtant, c'est un Polonais, Konrad Kozieniowski, qui a quitté sa Pologne natale à 17 ans pour prendre la mer et deviendra sujet de la reine à la trentaine. Toute petite parenthèse, vous allez voir, assez surprenante. La carrière maritime de Joseph Conrad débute à Marseille. C'est là qu'il est formé comme mousse et matelot. Et tenez-vous bien, exactement au même moment, dans les mêmes jours, erre sur les quais de la ville un jeune homme de 21 ans qui n'écrira plus une ligne et qui attend un embarquement pour chercher aventure et fortune en Afrique, Arthur Rimbaud. Voilà. Conrad, c'est loin d'être un marin d'eau douce. Ah non, vraiment pas. Il sera breveté capitaine au long cours en 1886 et les mers asiatiques seront celles qu'il sillonnera le plus. Sumatra, Bornéo, Java, Hong Kong, l'embouchure du Mékong. Plus tard, elles seront le décor de ses principaux textes, tous écrits en anglais. Typhon, Impérial des îles ou le formidable Lord Jim. Mon navire, semblable en cela à quelques femmes exceptionnelles, était un être dont la seule existence provoquait le ravissement sans arrière-pensée. Non, ce n'est pas un extrait d'un roman de Conrad, mais une vraie opinion personnelle sur sa première vie de marin. Au passage, vous voyez comme tout se recoupe, à la fin de sa vie, Pierre Schoendorfer s'est forcé de lancer la réserve... Pardon. Au passage, vous voyez comme tout se recoupe, à la fin de sa vie, Schoendorfer s'est forcé de se lancer dans la réalisation d'un film adapté de Typhon. Un mot sur Lord Jim. C'est l'histoire d'un jeune officier en second sur un navire qui transporte de très nombreux pèlerins musulmans en partance pour la Mecque. Une nuit de tempête, un choc, fait craindre au capitaine qu'une voie d'eau ne soit ouverte sous la coque. Et l'équipage, lâchement, abandonne le navire, laissant les malheureux passagers du Patna à leur sort. Tout l'équipage, y compris Jim.
Certaines calamités naturelles frappent l'homme sans trop l'émouvoir. Mais la tempête l'attaque comme un ennemi personnel et paralyse son jugement. Que leur cri s'adressait, s'imaginait-il qu'il allait sauter ? Non, jamais. Il sombrerait avec son navire. Il ne pouvait pas le croire. Il était impossible qu'il fût dans le canot. Il était encore sur le pont. Puis il comprit la mer, la déconcertante vérité. Il avait sauté.
Eh oui, Jim avait sauté, mais le bateau ne coule pas. Il est même remorqué jusqu'à un port par un autre bâtiment. Ensuite, tout l'équipage fuit le procès, sauf Jim, qui ne veut pas commettre une deuxième lâcheté. Même si le naufrage, miraculeusement, donc n'a fait aucune victime, le verdict tombe. Jim est interdit de navigation. Dès lors, il n'a de cesse de se fustiger et de chercher la rédemption au point de mourir volontairement dans une lutte entre des villageois opprimés et une sorte de seigneur de la guerre asiatique, devenu enfin un héros. Un livre formidable et subtil. Paradoxalement, le lien le plus étroit entre Conrad et la région indochinoise, c'est un livre qui ne s'y déroule pas. Heart of Darkness raconte la lente remontée d'un fleuve au cœur de la forêt africaine pour retrouver Kurtz, un directeur de comptoir aux étranges méthodes et dont on est sans nouvelles. Remonter ce fleuve, c'était comme voyager vers le commencement du monde, quand la végétation couvrait fatalement la terre et que les grands arbres étaient rois. Un fleuve désert, un grand silence, l'air était chaud, épais et lourd. Coppola déplace l'action dans le Vietnam en guerre contre l'armée américaine. Un patrouilleur remonte lentement des cours d'eau et s'enfonce dans la jungle cambodgienne pour retrouver le colonel Kurtz, joué par Brando, et devenu follement sanguinaire. Oui, Heart of Darkness est devenu Apocalypse Now. This is the end,
my only friend, the end. Are you an assassin? I'm a soldier.
Parlons d'un autre officier de marine, français celui-là, Julien Viaud. Vous le connaissez ? Son nom de plume, c'est Pierre Loti, né en 1850. Lui aussi, un vrai marin, retiré capitaine de frégate, 20 ans en mer, 3 ans en temps de guerre, ça n'est pas rien. Il n'est plus très lu de nos jours, mais il fut une énorme star. Plus jeune académicien à 42 ans, grande croix de la Légion d'honneur, tout de l'auteur officiel. De quoi déplaire au jeune André Breton qui, à la mort de Loti, l'appelle dans des articles « l'idiot, le sinistre bonhomme ». Bon, André Breton n'a jamais été très chaleureux. Donc, Viau, ou Loti, est officier de marine et sa carrière débute à la charnière du Second Empire et de la Troisième République. Il voulait suivre les traces de son frère Gustave, chirurgien de marine, mort de dysenterie et immergé dans le golfe du Bengale. Son lien avec l'Indochine est avant tout guerrier. En 1883, alors qu'il cingle vers le Tonkin à bord de la corvette l'Atalante, il écrit à une amie « être en route pour l'enfer jaune ». L'expédition du Tonkin avait pour but à l'époque de prendre vraiment pied au nord de la péninsule indochinoise. La France est déjà solidement implantée depuis 20 ans en Cochinchine, au sud. Mais les pavillons noirs, sorte de pirates chinois ultra-violents, sont de plus en plus hostiles aux incursions françaises et soutiennent l'empereur d'Annam, Tu-Duc. Les navires français bombardent les forts de Hué, siège d'un coup impérial. Les fusiliers marins débarquent pour s'en emparer. La disproportion des forces est telle qu'en 3 heures, tout est terminé. Les Annamites déplorent 1500 morts, les Français, zéro. Pierre Loti écrit 3 articles pour le Figaro sur la prise de Hué de manière anonyme. Puis le journal donne son nom, car elle est célèbre déjà depuis la publication de son premier livre, Le roman d'un spahi. Ses textes, sans la dénoncer, décrivent la violence dans un terme presque scientifique, chirurgicaux, la sauvagerie même des soldats français. Ils s'amusaient à compter les morts, on n'avait plus conscience de rien, tous les sentiments s'absorbaient dans une étonnante joie de détruire. La série fait du bruit, l'opinion s'émeut. Jules Ferry tombera d'ailleurs 2 ans plus tard à cause du Tonkin. Aussitôt, interdiction de publier la suite et convocation au ministère pour Loti Viau. Affaire classée finalement, et le Figaro propose à Maupassant de le remplacer. J'avoue que j'ai des regrets, non mais imaginez, Maupassant correspondant de guerre au Tonkin. Loti n'est pas un rebelle, un anticolonialiste avant l'heure, non, pas du tout. Lorsqu'une amie, à propos de la prise de Hué, lui parle des grandes émotions qu'il a dû ressentir, il répond « Mon Dieu, non, si vous avez pu voir avec quel calme ennuyé je faisais pointer les canons sur ses ennemis pour rire. » Il y retourne 1 an plus tard, rassemblera ses souvenirs dans « Propos d'exil ». Non, vraiment, il n'a pas aimé ce pays qu'il décrit ainsi. Odeur de musc, de fumier humain, créature de cette triste race jaune. Cela dit, ça ne l'a quand même pas empêché de chaparder à Hué 600 kilos de butin. Statues, lances, bouddha, faïence, vêtements, etc. Et 20 ans plus tard, à l'occasion de la campagne contre les boxers, ce sera 800 kilos de pillage. Tout cela viendra orner son invraisemblable maison de Rochefort, où il donnera des bals costumés jusqu'à un âge avancé. Plus scrupuleux quand il était un jeune aspirant, il avait été le témoin choqué de l'arrachage d'une tête sur l'île de Pâques que vous pouvez toujours aller voir au musée du quai Branly. Un officier américain séduit une jeune japonaise, l'épouse pour rire, croit-il, et l'abandonne. C'est le thème du livret de l'opéra Madame Butterfly de Puccini. Nous retrouvons aujourd'hui les écrivains, voyageurs qui ont écrit sur l'Asie, qu'ils ont foulé de leurs pas. Donc, chose assez stupéfiante, 20 ans après l'expédition de Hué, alors que Loti commande le contre-torpilleur Vautour, sous ses ordres sert un jeune enseigne de vaisseau nommé Frédéric Charles Bargon, inconnu, mais qui deviendra aussi écrivain. Comme Loti, il a participé à des opérations en Extrême-Orient, notamment l'occupation du Kangche-Wan. Totalement oublié, juste un mot quand même, un territoire de 1300 km², donc un peu plus que Hong Kong, qui a été cédé par bail de 99 ans à la France par la Chine en 1898. On aurait pu avoir ce territoire en Chine jusqu'en 1997. Chemin de fer, gare, installations portuaires. La France construit tout cela, espère accroître son influence économique et culturelle dans le sud chinois. Le principal centre se nomme Fort Bayard. Mais ce confetti d'empire va disparaître en 1945. Revenons au jeune enseigne. Comme Loti, il écrit, et forcément sous un nom d'emprunt, Claude Farrer. Son premier livre, Fumée d'opium, se passe en Indochine. Et pour le second, publié à moins de 30 ans, il obtient le prix Goncourt. Les civilisés narrent les turpitudes sentimentales et sexuelles de trois Français de Saïgon qui vivent dans la débauche mais cherchent l'amour. Après ses débuts tonitruants, Farrer mènera de front ses deux carrières, quittera la marine après la Première Guerre mondiale et publiera sans relâche jusqu'en 1960. Comme Loti encore, il sera élu à l'Académie française. Son dernier livre, publié à titre posthume, a pour titre Florence de Cao Bang. Alors rien à voir avec l'Indochine, mais quand le président de la République, Paul Doumer, est assassiné, c'est à l'instant même où il s'entretient avec Claude Farrer dans un salon littéraire. Farrer tente d'ailleurs de détourner l'arme, mais il est blessé au bras. Tiens, folklore d'époque, Maurice Chevalier, Maton qui noir.
Pour me distraire, sans manière, au Tonkin je suis parti. Oh, j'ai le bon pays, mesdames, c'est le paradis des petites femmes. Elles sont belles et fidèles, et je suis devenu le chéri d'une petite femme du pays qui s'appelle Mélaoli. Je suis gobé d'une petite, c'est une anamite. Elle est vive, elle est charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma petite bourgeoise, ma tonkiki, ma tonkiki, ma tonkinoise. Il y en a d'autres qui me font les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Soir on cause d'un tas de choses avant de se mettre au pieu. J'apprends la géographie, la Chine et de la Mandchourie, les frontières, les rivières, le fleuve jaune et le fleuve bleu. Il y a même l'amour, c'est curieux, car ose l'empire du milieu. Je suis gobé d'une petite, c'est une nana, une anamite. Elle est vive, elle est charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma petite bourgeoise,
ma tonkiki, ma tonkinoise. La version la plus connue, ce sera celle de Joséphine Baker, mais là c'était Maurice Chevalier. Nous parlons des écrivains en Asie, notamment en Indochine. Contrairement à Pierre Loti, 70 ans après lui, Graham Greene, l'auteur anglais, a adoré ce pays. Je ne sais pas pourquoi, je suis tombé amoureux du Vietnam. Ici, tout a une intensité particulière, les goûts, les odeurs et même la pluie. Rien à voir avec le crachin sinistre de Londres. Les odeurs promettent tout en échange de votre âme. Il y a aussi la chaleur qui réduit votre chemise en chiffon et vous fait oublier jusqu'à votre nom et ce que vous avez fui en venant ici. Bon, ce n'est pas lui qui parle, mais son personnage, Thomas Fowler, journaliste anglais, héros d'un Américain bien tranquille, le grand roman de Greene sur l'Indochine française. Greene, déjà célèbre pour La puissance et la gloire ou Le troisième homme, a été reporter lui aussi dans cette colonie française. Quatre fois, entre 51 et 55, il y a fait de longs séjours. De là Tressalan, les commandants en chef successifs, avec lesquels il fuma l'opium, l'appréciaient tout en se méfiant un peu de lui, le suspectant à juste titre d'être un agent occasionnel du MI6. Dans ce roman, publié en 55, deux histoires se jouent. Le journaliste blessé et vieillissant qui va perdre sa jeune maîtresse vietnamienne, Fiong, au profit de Pal, un Américain d'aspect ingénu, officiellement venu pour l'aide médicale. En fait, il travaille pour la CIA et il joue un jeu très trouble. La lutte contre le communisme justifie pour lui tous les moyens, y compris un attentat au cœur de Saïgon, tuant des civils et attribué aux Viet Minh. Qualifié d'anti-américain, le livre ne plaît pas beaucoup là-bas, d'autant plus que la trame du roman reprend des éléments très réels. Il y a bien eu, à Saïgon, le 9 janvier 52, des attentats à la voiture piégée. Et comme dans le roman, le Vietnam fait Viet Minh, en fut soupçonné. Et comme dans le roman, des éléments à la fois anti-français et anti-communistes en étaient les auteurs. Greene, qui était ailleurs au Vietnam ce jour-là, partit de ce point de départ. Il a sans doute laissé l'imagination vagabonder, mais la métaphore est lisible. La vieille Europe blasée, Fowler, est au fond moins cynique que l'Amérique sans scrupules, Pyle. Et le Vietnam, Fiong, ne sait pas auquel se donner. Grimm, homme de gauche, il a été proche de Castro à Cuba, penchait pour l'indépendance du Vietnam. Il rencontra Ho Chi Minh d'ailleurs, mais il écrivit quand même « Un écrivain devrait être toujours prêt a changé de camp en un instant.
On dit qu'en vivant au Vietnam, on comprend très vite beaucoup de choses. Mais que pour le reste, il faut toute une vie. Je ne défends aucun point de vue, je reste en dehors de l'action, je ne m'implique pas. C'est pas vrai. 2 ans déjà.
Et oui.
Je me présente, Alden Pyle.
Ma sœur, c'est la plus jolie fille de tout Saigon.
Cela ne fait aucun doute. Alors, vous êtes mariée ?
Oui, je le suis. Mais pas avec elle.
Qu'est-ce que tu as à lui offrir ?
Je l'aime. Énormément.
Regarde Fong, maîtresse d'un Européen vieillissant. N'est-ce pas un bon résumé de la situation de ce pays ?
J'aurais dû réaliser que sauver un pays et sauver une femme, c'était la même chose pour quelqu'un comme Pyle. Je travaille sur un sujet de première importance.
Américain ! Non, ne tirez pas !
Pyle !
Thomas !
Mais qu'est-ce que tu fous ici ? Tu n'as pas débarqué pour t'occuper de ton antenne médicale, n'est-ce pas ?
Il y a une autre raison pour laquelle j'ai débarqué ici.
Tu veux dire que Pyle est de l'OSS ?
Je crois bien qu'aujourd'hui, ça s'appelle CIA. Un jour ou l'autre, Monsieur Foller, on doit choisir son camp.
Le grand journaliste français de la guerre de Chine, ce fut évidemment Lucien Baudard, Lulu le Chinois comme on l'appelait. Il est né en Chine et de son enfance incroyable, il tira des récits à succès comme Le Fils du Consul ou Anne-Marie, lui aussi pris Goncourt en 1981. Mais ce qui nous intéresse, c'est bien sûr son activité de correspondant de guerre en Indochine. Il y est présent en 1948 et sera encore là jusqu'en 1955, quand il sera expulsé par le président Diem. Baudard est en effet incontrôlable. Et sa grande force, en dehors de sa plume, à propos de laquelle il disait d'ailleurs « il faut avoir comme modèle Tolstoï et Hugo, rien que ça », c'est son aisance dans tous les milieux, sa capacité à faire parler les gens. Il explore les bas-fonds, les dancing, les quartiers grouillants de Chelon et dépense d'énormes notes de frais. Pas de problème pour son patron Pierre Lazareff, directeur de François, qui tire alors à 1 million d'exemplaires. Sa silhouette massive, sa mise un peu négligée, hante aussi les cocktails mondains à Saigon, à Hanoï, le mythique bar du Continental où il tire sur son cigare éternel. Un jour, l'empereur Bao Dai le reçoit chez lui, dans son palais de Dalat, pour un dîner de plats livré par avion depuis chez Maxim's à Paris, servi par des femmes au sein nu, et l'emmènera à la chasse aux buffles sauvages. Pendant 7 ans, Baudard sera partout. Sur les pistes, dans les rizières, sur les pitons isolés où des légionnaires attendent depuis des mois la relève qui n'arrive pas, dans les bars et les fumeries où les confidents surviennent dans l'hébétude de l'opium, il déjoue la censure militaire qu'il juge dangereux, pire que le Vietnam. Quand Delattre arrive, les choses changent. Entre Lulu le Chinois et le roi Jean, le courant passe. Il va faire de cette guerre la dernière épopée romantique, écrit Baudard. Entre les deux hommes, c'est un peu à qui manipule qui. Le général déra ainsi. Il faut savoir faire avec les journalistes. Il faut leur donner une pâture. Avant, dans l'armée, on leur mentait à 95%. C'est une idiotie. Moi, je mets au moins 50% de vérité. Ça rend les choses vraisemblables. Je revois tout, dira Baudard au soir de sa vie. Ho Chi Minh, ses yeux de feu, les brigands, les tumultes de Saigon, Hanoï si calme, les églises, le soulèvement d'un peuple écrasé, la guerre interminable, l'héroïsme de nos soldats, le romantisme, la tragédie. Évidemment, sa somme sur la guerre d'Indochine est la référence absolue en 3 tomes, l'enlisement, l'aventure, l'humiliation. Ce roman, c'est l'histoire de 2 villes qui n'existent plus, Hanoï et Saigon. Certes, 2 villes portent encore ces noms, mais elles sont prudes, hypocrites. Elles n'ont plus rien à voir avec les belles métisses nées de l'union des blancs et des jaunes et qui moururent de leur divorce. Elles étaient infidèles et tendres, cruelles, paresseuses, violentes, impudiques et secrètes. Ceux qui les aimèrent contractèrent à leur contact un mal dont ils n'arrivent pas à se guérir. Une sorte de nostalgie qui devient fièvre certains soirs de cafard, le mal jaune. L'auteur de ces lignes, c'est Jean Lartégui. Ami de Baudard, le moins qu'on puisse dire, c'est que sa vie et son œuvre sont marquées par l'Asie. Officier pendant 7 ans, il est blessé en Corée en 1951, multidécoré. Par la suite, il devient correspondant de guerre pour Paris Match, puis romancier. Tout ce qu'il écrira, ou presque, est lié au conflit et à la colonisation. Clairement, il est favorable au colonialisme et très anticommuniste. Cependant, il est très dur avec certains aspects du système et écœuré par l'abandon des populations qui avaient cru en la France. Le sacrifice, la fraternité d'armes, les valeurs martiales, c'est une constance de son œuvre. Les centurions, les mercenaires, les prétoriens, 1 million de dollars le Viet, les tambours de bronze, tout se passe en Asie. Le point de vue de Lartégui est évidemment très daté, très connoté, témoin d'un monde et de valeurs disparues. Cependant, David Petraeus, commandant en chef américain en Irak et en Afghanistan en 2008-2010, puis brièvement directeur de la CIA, a reconnu s'être inspiré des centurions pour sa conduite de la guerre contre-insurrectionnelle et en a chaudement recommandé la lecture à ses officiers. Par un retour des choses très surprenant, une fiction inspirée du réel modifie à son tour le réel.
regarde si je t'aperçois. Hanaï, Hanaï, je me souviens. Ton visage, ton parfum, tes couleurs aussi. Je te regarde passer, je suis chez toi. Hanaï, Hanaï, tu me retiens.
Hanoï, Hanoï, superbe chanson de la grande Sophie. Un autre écrivain, ancien officier, a écrit sur la guerre d'Indochine, mais dans un registre et un esprit bien différents. Jules Roy. On peut même dire qu'il est l'antithèse exacte de l'Artegui. Un parcours assez étonnant d'ailleurs, séminariste puis militaire. Né dans l'Algérie française en 1907, il deviendra un partisan de l'indépendance, un pied noir anticolonialiste, ami d'Albert Camus. Auparavant, il avait servi dans l'aviation de la France libre, accomplissant 36 missions de bombardement sur la Roure. De cette expérience, il avait tiré un livre, La Vallée Heureuse, qui évoque à la fois l'angoisse des équipages et leur honte de participer à un massacre. Il lui vaudra à la fois le prix Renaudot en 46 et 15 jours d'arrêt de rigueur. Il fut pétainiste en 1940, au moment de Mercier le Kébir, avant de devenir gaulliste. Il fut Action française avant de devenir un homme de gauche, chroniqueur à l'Express. Est-ce que ce sont des reniements ? Beaucoup de membres de ces communautés, les pieds noirs, les militaires, le voyaient presque comme un traître. Je crois que c'est plus un esprit libre qui essaie de se dégager des idées préconçues. Revenons à l'Indochine, un tournant pour lui, même si évidemment la grande affaire de sa vie, c'est l'Algérie. C'est quand même là, en Indochine, qu'il y a eu une inflexion fondamentale. Il y est allé, comme militaire, par solidarité avec ses camarades, et ce qu'il vit lui fit horreur. Au sujet de l'armée française, il dira dans une interview « Quand j'ai vu qu'on employait le napalm, qu'on rasait tout, qu'on massacrait des gens parce qu'on se croyait les sentinelles du monde libre alors qu'ils luttaient pour l'indépendance, ça a été au-dessus de mes possibilités morales, j'ai quitté l'armée. » À l'époque, il est officier de communication. Difficile de promouvoir quelque chose qui vous choque à ce point. Au sujet de Dien Bien Phu, il écrira un livre totalement à charge contre le général Navarre et amusant en parallèle avec l'Artegui, son livre séduira les Américains, notamment John Fitzgerald Kennedy, qui l'aimait beaucoup. Ah, Joseph Kessel. J'avoue être assez embêté, car si quelqu'un a incarné le reporter au long cours, sillonnant la planète, ramenant des témoignages saisissants, plaçant le lecteur dans l'action, c'est bien lui pendant une cinquantaine d'années. De plus, j'avoue un faible personnel pour Kessel. Avez-vous parfois ce sentiment de connaître si bien un auteur qu'il est devenu votre intime et que vous êtes le seul à le connaître vraiment, qui n'écrit que pour vous ? C'est un peu le cas pour Kessel et moi. Donc, pourquoi suis-je embêté ? Parce qu'il n'a pas vraiment écrit grand-chose sur l'Indochine. L'Afghanistan, la Birmanie, la Palestine, Hong Kong, Macao, l'Afrique, la Russie, bien sûr, la Mer Rouge, Hollywood. Autant de reportages et souvent par la suite des romans enrichis de notes accumulées. Mais rien de passionnant sur l'Indochine. J'ai donc trouvé un prétexte pour parler de mon héros, l'opium. Kessel en fut un consommateur régulier toute sa vie. L'opium, c'est une décision à prendre, avait écrit son ami Cocteau. Mais comme toujours avec lui, la force vitale est plus forte que l'addiction. Et il ne sera jamais un accro. Comme pour l'alcool d'ailleurs, qu'il consomme d'incroyables beuveries et dont il se sépare sans dommage pour des semaines ou des mois de voyage de labeur. N'oublions pas que dans l'Indochine française, c'est l'administration française qui a le monopole officiel de l'achat, de la fabrication et du commerce de la drogue. Et savez-vous qui a institué cela ? Le gouverneur général, Paul Doumer, futur président de la République, assassiné sous les yeux de Claude Farrère. L'opium, Kessel l'a découvert à Shanghai quand il y fait escale à son retour de Vladivostok. Et c'est le consul de France qui l'initie. Dans le cabinet attenant à son bureau, en savourant une pipe d'opium, il lui fait une proposition incroyable, devenir chef de la police de la concession française, un peu comme l'abject Dawson dans Tintin et le Lotus Bleu. Nul doute que Kessel aurait été plus honnête. Un mot sur le consul, personnage stupéfiant. Ses administrés l'appellent votre grandeur, enfin même votre sainteté. Et donc ce poste, bien payé, attirant pour qu'il cherche l'action, les tripots, les jeux clandestins, les raquettes, les enlèvements, tout ça, les bons trains, les trafiquants, les seigneurs de la guerre, les espions, la misère qui côtoie le luxe. Après avoir hésité, Jeff refuse. Dommage, quel roman il aurait tiré de cette aventure.
Dans le port de Saigon, est une jonque chinoise, mystérieuse et sournoise, qu'on ne connaît pas le nom. Mais le soir on entre bon, quand la nuit se fait complice, les Européens se glissent, cherchant des coussins profonds. Opium, poison de rêve, fumée qui monte au ciel. Toi qui nous élèves au paradis artificiel, je vois le ton visage, les yeux de mon bébé. À toi, je suis en marge dans ton nuage fumé.
Connu peut-être Jacques Dutronc, mais au départ, c'est une vraie chanson militaire de l'époque. Et oui. Vous l'avez remarqué, le casting manque un peu de femmes. Aussi ai-je pensé à Martha Gellhorn. Elle fut l'une des premières femmes grand reporters et même correspondante de guerre. On la connaît pour avoir été une des femmes des Mingwei de 1940 à 45. Mais c'est elle qui le quitta, expliquant qu'elle ne se voyait pas comme une simple note de bas de page dans la vie de quelqu'un d'autre. Grosse personnalité, Martha. Elle l'a prouvé très vite, en quittant sa famille pour arriver à Paris avec $75 et une machine à écrire. À l'époque, pour les jeunes américains artistiques, c'était la place to be, Paris. Fitzgerald, Man Ray, Elliott et bien d'autres, dont Hemingway, qu'elle ne fréquentait pas à l'époque. S'en suivront quelques années d'aller-retour avec l'Amérique, un job régulier pour une attelle presse et la publication de nombreux articles dans différents magazines. Mais les choses vraiment sérieuses commencent avec la guerre d'Espagne où elle retrouve Hemingway. Leur idylle, commencée un peu plus tôt, se développe là-bas. Tous deux écrivent pour des magazines et prennent fait et cause pour les républicains contre les militaires nationalistes de Franco. Elle réussit ensuite un bel exploit. En 1941, elle est envoyée en Chine pour y suivre côté chinois la guerre avec le Japon. Double exploit même, puisqu'elle emmène Ernest en prince consort. Pour la seule fois de sa vie, il n'a pas le premier rôle. En 1944, correspondant de guerre, elle veut absolument être là pour le débarquement. Comme elle n'a pas l'autorisation, elle se glisse au culot sur un navire hôpital. Elle aide les infirmières, elle voit revenir les blessés, elle recueille leurs témoignages et elle réussit à se faufiler un peu plus tard sur une ambulance qui débarque. Son parcours évoque un peu la photographe Lee Miller qui se prendra en photo dans la baignoire d'Hitler. Martha sera là aussi le jour de la libération du camp de Dachau. Elle sera présente au projet Eichmann et elle couvrira les conflits jusqu'en 1989, année de l'intervention militaire américaine au Panama. Elle aura 81 ans. Écoutons Martha Gellhorn parler de son métier.
Le devoir d'un correspondant de guerre est de dire comment est vraiment la guerre. Si vous êtes un vrai correspondant de guerre, vous êtes là où ça se passe vraiment. Vous n'êtes pas au quartier général ou dans la capitale, assis, discutant avec des généraux et des politiciens. Vous êtes là où ça se passe, avec les gens à qui tout cela arrive. La guerre est une abomination. Elle est injuste et cruelle. Votre travail est de montrer ce qu'elle fait vraiment aux gens. En Europe, vous n'avez pas ce problème, car la population civile sait parfaitement de quoi il s'agit. Mais si vous écrivez pour un public américain, les gens n'ont absolument aucune expérience de la guerre. Il faut essayer de leur faire ressentir. Les gens disent qu'ils ont vu la guerre du Vietnam constamment à la télévision. Mais je ne crois pas que ça fonctionne. Je ne crois pas que les émotions passent. Peut-être est-il impossible de faire comprendre ce qu'est la guerre à ceux qui n'en ont pas la moindre expérience. Je n'en suis pas sûre. Mais évidemment, notre devoir est de la décrire telle qu'elle est. Il ne s'agit pas de la glorifier en aucun de ses aspects. Mais il est difficile de ne pas rendre hommage quand c'est mérité. À la bravoure, à la générosité, à la bonté. Impossible de ne pas ressentir, de ne pas montrer, de ne pas décrire la pitié. Je ne sais pas. Le devoir de tout journaliste est de dire la vérité. Il y avait des jours où c'était intéressant et beaucoup d'autres et où c'était mortellement ennuyeux, horriblement inconfortable. D'autres fois, c'était, on peut le dire, terrifiant et dangereux sans cesse. Mais nous étions parfaitement conscients que nous pouvions repartir, mais pas eux, la population. Évidemment, ça affecte votre comportement. Vous ne pouvez pas vous dire « je passe un moment fantastique, je vais rester ici un mois ou deux et je vais rentrer pour me faire mousser ». Je n'ai jamais entendu un reporter exprimer ça. S'il l'avait fait, on l'aurait pris pour un dingue.
C'était Martha Gellhorn, la femme d'Hemingway pendant quelques années, mais surtout correspondant de guerre et écrivain. Le Vietnam, elle ira là-bas en 66 pour le magazine anglais The Guardian. Et ce qu'elle verra ne lui plaira pas. Je veux écrire sur les Vietnamiens, ceux qui meurent et qu'on oublie. Je veux leur donner des visages pour que le public comprenne que nous détruisons qui nous détruisons. Nous perdons 300 GIs par semaine, c'est affreux, c'est épouvantable, mais eux sont des milliers. Cet esprit, évidemment, ne convenait pas bien à l'état-major et Martha ne fut pas autorisée à revenir au Vietnam. Oui, je crois qu'il aurait été injuste de ne pas parler un peu de Martha Gellhorn. Décidément, en avançant dans cette liste, je m'aperçois que la guerre est hélas très présente. Mais c'est un triste constat. Contre les Français, les Américains ou entre eux, les Vietnamiens se sont battus pendant 30 ans. Puis, près de 15 ans de conflits impliquèrent Vietnamiens et Cambodgiens, sans parler de l'atroce épisode des Khmers Rouges. Le XXe siècle a été épouvantable pour ces peuples et il est difficile de les évoquer sans que l'une ou l'autre de ces guerres ne soit la toile de fond. Bien avant de fonder Reporters sans frontières, Jean-Claude Guibaud a couvert de nombreux conflits. Parmi eux, la guerre du Vietnam, pour Le Monde et Le Nouvel Observateur. À la même époque, Raymond Lepardon vient y faire des reportages photographiques. 20 ans après, les deux hommes décident de retourner sur place pour voir ce pays apaisé, en tout cas l'espère-t-il. Nous savons que nous reprendrions un jour ou l'autre l'avion pour Saïgon, comme on retourne sur ses pas avec un peu d'effarement. Ce retour donne lieu à un livre qu'il co-signe, sorti en 1993 à Colline des Anges. Pour les professeurs de français vietnamiens, c'est alors le meilleur livre sur le Vietnam. D'Ho Chi Minh Ville à la baie d'Along, il remonte lentement le pays, notamment en train, et compare leurs souvenirs à ce qu'ils découvrent. Celui qui découvre l'Asie par le Vietnam s'expose à être déçu par tout ailleurs, dit Depardon. Visiblement, le charme opère toujours sur les deux reporters. Dans les gares, nous attendent des embuscades de petites vendeuses. On brandit sur notre nez des ananas coupés, du chewing-gum, on tire des balanciers et des couffins dans les couloirs. La colline des anges mélange souvenirs de guerre et visions de paix, images du passé et rencontres du présent. Légèreté des jeunes gens en scooter et pesanteur de l'idéologie communiste. C'est un voyage sans illusion, mais pas sans espoir, comme dira joliment un critique. Difficile de faire une émission sur l'Indochine sans écouter au moins une fois le groupe qui porte ce nom, même si aujourd'hui on parle de littérature, un petit clin d'œil. S'il y a un romancier dont l'œuvre est marquée par l'Indochine, c'est bien Jean Hougron, à peu près oublié maintenant, mais qui a connu dans les années 50 un succès fulgurant. Tu récolteras La Tempête, sorti en 1950, et tiré à 500 000 exemplaires. On y voit, à travers les yeux d'un médecin français, la vie d'une petite ville au Laos, morne province finalement, où les commérages et l'ennui sont les mêmes qu'en France, mais où les communautés français, vietnamiens, laotiens finiront par s'affronter. Suivront 7 tomes jusqu'en 58, le tout formant le cycle La Nuit Indochinoise, qui obtint le prix de l'Académie française. Hougron ne prend pas parti. Il n'impose aucune idéologie pour ou contre l'indépendance. Il raconte des histoires violentes dans une époque violente. Malgré tout, il sera interdit de séjour par les autorités coloniales au Vietnam comme au Laos. Il savait quand même de quoi il parlait, pour y avoir vécu 5 années bien remplies. Vaguement prof d'anglais à Dreux, il s'ennuie en 46 et veut se rapprocher d'endroits plus excitants. À Marseille, il travaille quelques mois dans une boîte d'import-export. Quand on lui propose un poste à Saigon, il saute sur l'occasion, par goût de l'aventure et avec l'idée d'y trouver de la matière pour écrire des romans. Bien vu. Car après quelques mois à vendre de la sauce et des sardines à la tomate, du lait concentré, du champagne, le jeune homme de 24 ans s'ennuie. Un ami lui propose de l'accompagner en camion à la frontière thaïlandaise en transportant de la quincaillerie. Et c'est le début de 4 années bien remplies. Cambodge, Laos, Thaïlande. Il parcourt toutes ces régions en camion. Ensuite, il profite des occasions que la colonie offre à un jeune blanc dégourdi. Il sera prof d'anglais à Saigon et à Vientiane, prestateur à la radio, ramasseur de cornes molles de serre, on se demande ce que c'est, au Laos, de résine, et il sera planteur de tabac à la frontière thaïlandaise.
Le climat du Tonkin est plus rude, plus âpre que celui du sud, et les hivers y sont rigoureux. Dans la région, de petits colons français opiniâtres ont débroussaillé des forêts entières, avec l'aide de coulis qu'ils payent moins d'une piastre et une ration de riz par jour. C'est ici, dans le nord, que les échos de la guerre me parviennent avec le plus d'insistance. Les Blancs fanfaronnent entre eux, en se répétant que le Viet Minh n'est pas un combattant digne du soldat français, qu'en dehors des embuscades, il ne peut pas vaincre. Pourtant, avec la guérilla qui s'installe dans la région, la peur règne dans la plantation. Combien de temps encore nous reste-t-il avant de devoir partir? C'est à la plantation où il venait prendre sa cargaison d'EVA que je rencontrais Mike, le pilote. C'était un mercenaire solitaire qui, pour vivre sa passion, livrait des marchandises de contrebande à travers la péninsule. Du pastis, du cognac, du tabac. Parfois, il transportait des chasseurs de tigres et d'éléphants, des archéologues et des scientifiques, et même des douaniers. Petit à petit, nous sommes devenus amis. C'était de ces hommes-là que je voulais apprendre la vie. Depuis les années 30, il sillonnait le ciel d'Indochine. À ses débuts, il avait connu les vols à hélice, sans appareil de navigation, à l'aveugle. Le pilotage se faisait à vue, et partant de brouillard, il lui fallait se pencher par la fenêtre du cockpit pour distinguer son chemin à travers les nuages et les orages. Aucune percée de la haute région, aucune piste, surtout les plus raboteuses, ne lui était inconnue. Le pilote était un de ces personnages que l'Indochine attire, envoûte, avale. mais ne recrache jamais.
Jamais. Un extrait de Aventure en Indochine, un film formidable de Patrick Judy, qui était notre invité ici même dans cette émission il y a quelques semaines, et qui évoque librement la vie de Jean Hougron, l'écrivain dont je vous parle en ce moment. En 1951, Hougron sera de retour en France. Et toute cette matière, ce grand dehors, comme dirait Michel Lebris, le fondateur du festival Étonnant Voyageur, à Saint-Malo tous les ans, c'est il y a quelques semaines, il faut vraiment y aller un jour, il écrira d'autres livres et sera même, Jean Hougron, dans les 8 finalistes du concours en 65. Encore, détail amusant, Marguerite Duras, née et enfant du Vietnam en quelque sorte, en était aussi pour le ravissement de Lol V. Stein. La suite des aventures d'Hougron vues par Patrick Jeudy.
Je parcourais maintenant une zone plus tourmentée. De moins en moins de pirogues descendaient le fleuve. Plus personne ne semblait emprunter cet itinéraire-là. Les derniers villages que je traversais étaient hérissés de pieux acérés, sur lesquels étaient plantées des têtes de serpents, et à certains moments, j'ai cru voir des têtes d'hommes décapités, offertes aux esprits pour les régaler de leur part du festin. Le Mékong se faisait de plus en plus étroit. Des animaux crevés flottaient au milieu des liserons. Nous naviguions avec prudence, tant les eaux du fleuve étaient basses. À certains moments de la journée, on pouvait apercevoir des poissons-chats géants, des dauphins d'eau douce et des raies immenses de près de 500 kilos. Je jurerais même d'avoir vu, lorsque le soleil se cache derrière les arbres des berges, les dragons du fleuve, les Fayanaga, qui montent à la surface telles des boules de lumière pour terroriser les populations locales. C'est au détour d'un sentier, dans le col des nuages, que j'en vis d'abord un, puis deux, et enfin une grappe entière. En pleine mousson de l'automne 1953, je découvris enfin les Méos, le peuple des nuages.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
En 49, pendant que Jean Hougron plante du tabac, une unité de partisans Hmong, hostiles au Viet Minh, se fraye un chemin dans la jungle. À leur tête, un administrateur des colonies qui se met en chef des guérillas. Son jeune frère l'a récemment rejoint et crapahute à ses côtés. Il est très disponible et ont passé les épreuves écrites de l'ENA à Saïgon. Comme toujours avec lui, il règne un certain mystère sur ce qu'il fait vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'un soir, au bivouac, la radio du petit groupe crépite et annonce « Vous êtes admissible, rentrez d'urgence à Paris pour passer l'oral ». Pas banal, mais c'est toujours comme ça avec Jean-François Degnaud. Bien sûr, pour beaucoup, Degnaud est avant tout un haut fonctionnaire, un diplomate, un homme politique. Il fut en effet ministre pendant plus de 6 ans sous Pompidou et Giscard, après avoir été commissaire européen entre 67 et 73. Il fut député du Cher pendant 10 ans, ambassadeur de France, en Mauritanie à 35 ans, et en Espagne, au tout début du règne de Juan Carlos, dont il était un ami de régate très proche. Il mena également des missions officielles, semi-officielles, pour les ONG, un peu partout. Au Liban, en Érythrée, en mer de Chine pour aider les Boat People, en Somalie, en Amérique centrale, au Cambodge, en Afghanistan, auprès de Massoud, en Yougoslavie. Tout sauf un homme de bureau, bien qu'il devint académicien français. L'action et la conviction étaient ses règles. C'est déjà pas mal, non? Mais il fut aussi un grand amoureux des voyages, de la mer, et l'auteur d'une trentaine de livres, comme le dictionnaire amoureux de la mer, Les mémoires de cette vie, ou des romans, L'Empire nocturne, Tadjoura, un héros très discret. Son dernier livre, L'oubli, paru l'année de sa mort, en 2007. Il raconte l'histoire d'un Français, Claude Madère, fils d'un ingénieur disparu dans la jungle en 51 et d'une Vietnamienne. 40 ans plus tard, le fils part pour une mission scientifique qui a pour but de trouver les vestiges du royaume Champa. Ce petit royaume, îlot hindouiste au milieu de l'Indochine, a vraiment existé pendant des siècles, à cheval sur le Cambodge et le Vietnam. C'est l'occasion pour Claude, parti à la recherche de son père, ou tout au moins de ses traces.
«
Lorsque Jean-François Deniau fut élu à l'Académie française, il dut sacrifier évidemment au rite du discours avant de recevoir son épée et de rejoindre les immortels. Sûrement une des occasions en France les plus formalistes qui se puissent concevoir, dans des lieux ancestraux, devant un public exigeant et plutôt conservateur. Et son discours, évidemment, fut très peu académique, si j'ose dire. Ainsi raconta-t-il l'histoire d'un jeune député anglais à la fin du XIXe siècle dont le vote à la Chambre avait déplu au Premier ministre, qui lui dit alors « Jeune homme, vous auriez dû voter avec votre parti comme un honnête homme, et non pas selon votre conscience comme un aventurier. » Et Deniau conclut son discours ainsi « Mesdames, messieurs, vive l'aventure !» Autre anecdote amusante, un jour je tournais un film avec lui dans Sarajevo, cerné à l'époque par les Serbes, il me raconta une histoire assez charmante. L'action se passe la nuit, dans une forêt sombre et menaçante. Une maison lugubre occupe le centre d'une clairière. Des sons inquiétants en sortent et chacun tremble. Quelles forces maléfiques sont-elles à l'œuvre dans cette demeure ? Personne, pendant des années, n'osa pousser la porte vermoulue. La peur avait gagné. Mais finalement, un jour, le courage pousse la porte, entre et il n'y a personne. Pour poursuivre cette cavalcade avec un peu de légèreté, j'aimerais vous dire un mot sur une affaire étonnante qui s'est déroulée en Indochine entre 14 et 19, alors qu'on s'étripe sur la Somme, à Verdun et ailleurs. Le protagoniste principal est un jeune géologue installé à Hanoï depuis 1909, Jacques Deprat. Il y est chef de service géologique de l'Indochine. Il mène des recherches et des travaux remarqués qui lui valent la reconnaissance de son milieu et des prix internationaux en 14. Mais en 17, certains de ses confrères remettent en cause son travail, l'accusent d'avoir utilisé de faux fossiles. Indigné, il refuse de se soumettre à une procédure de vérification. Les choses tournent mal pour lui. Et après différents rebondissements, il est chassé de la Société géologique française pour indignité. Sa carrière est brisée. Sous le nom d'Herbert Wild, il se lance alors dans l'écriture. D'abord un roman qui expose son affaire de manière à peine déguisée, puis de la vraie fiction. Et il obtient un prix savoureux, écoutez bien, le Grand Prix littéraire des Français d'Asie. Et pour cette récompense, il est choisi au détriment d'un jeune marginal inclassable, auteur d'un roman qui se déroule au Cambodge, La Voie royale d'André Malraux. Pour la petite histoire, sachez que Deprat a été réhabilité et officiellement réintégré à la SGF, mais à titre posthume en 1991. Tiens, alors donc Malraux, nous y voilà. Je suppose que vous connaissez bien l'épisode plus glorieux de la vie d'André Malraux. Quand on y songe, cet homme incarna si fort la culture, l'érudition, l'amour de tous les arts, au point qu'on a créé un poste qui avant lui n'existait pas et qu'il occupa pendant 10 ans, ministre des Affaires culturelles. Eh bien cet homme-là a commencé sa carrière comme un vulgaire pilleur de trésors architecturaux. Certes, il en tirera un roman, La Voie royale, mais quand même. La Voie royale ne menait plus qu'aux vestiges que laissent derrière elle les ossements, les migrations et les armées, écrit-il avec son lyrisme habituel. Je me souviens avoir eu une conversation avec Jean Lacouture, très grand journaliste, son biographe. Je lui avais dit en parlant de cet épisode, finalement, à l'époque, Malraux, c'est Indiana Jones sans le chapeau et sans le fouet. Ça l'avait fait rire. Mais en réalité, j'avais tort, car si vous vous souvenez, Indiana Jones est à la recherche de pièces rares, authentiques, qu'il enlève en effet à leur peuple et à leur milieu d'origine, mais pour les transmettre à un musée. Notre Malraux n'a pas cette excuse, c'est bien du vol et du trafic. On peut parler de cupidité, même bien assumé. Revenons à l'affaire. Malraux, à 20 ans, a épousé une jeune femme assez riche, Clara Goldsmith. Il est plutôt mondain, féru de littérature, il fréquente des artistes avec une conviction très forte. « Vous ne pensez quand même pas que je vais travailler », a-t-il dit à Clara. 2 ans plus tard, après des placements hasardeux, Malraux cherche à se renflouer. L'art oriental est à la mode. Un Bouddha vaut 2000 piastres en Indochine, moins de 20 000 francs à peu près, 5 fois plus en France. Très bien. Malraux se renseigne auprès de marchands d'art éminents, flaire un peu le marché et c'est décidé, on file au Cambodge pour y dérober des statues Khmer. Il emmène Clara et un fidèle ami, Louis Chevasson, rencontré à l'école à 6 ans. Pour se donner un peu de crédibilité, il annonce qu'il va faire un don à l'école française d'Extrême-Orient, fondée 20 ans plus tôt par Paul Doumer, encore lui, et qu'il se contentera de faire des moulages pour le musée Guimet afin d'avoir une sorte de mandat du ministère. Non, non, c'est énorme. Mais comme il le dira dans La Voie royale, tout aventurier est né d'un mythomane. Donc, nos trois filous arrivent au Cambodge, s'installent à Siem Reap. Ensuite, ils prennent leur temps. 1 mois et demi d'observation avant de jeter leur dévolu sur le temple de Ban Thai Srey, le moins fréquenté. Mais à force de vouloir être malin et habile, on commet des erreurs. Malraux a en effet choisi comme moyen de transport le char à bœufs, plutôt inhabituel pour les Européens. Dès lors, sans le savoir, ils sont surveillés. Les pieds-nickelés jouent de la scie et du burin et s'emparent de 700 kilos de statues et de bas-reliefs. Et les voilà partis avec leur char à bœufs. Mais à Phnom Penh, les caisses sont saisies et les trois jeunes gens assignés à résidence à l'hôtel. Bon, il y a pire. On imagine quand même Malraux fébrile face à l'inaction forcée. En juillet 24, le verdict tombe, 3 ans de prison pour Malraux, 1 an et demi pour Chevassion, Clara n'est même pas inculpée. Mais ils ne font pas un seul jour de geôle. Ils font appel, ils se rendent à Saigon. Clara, elle, rentre à Paris et Dieu sait comment, elle obtient que les intellectuels signent une pétition pour son mari. Mauriac, Breton, Aragon, Gide, assez éclectique. Et en octobre, le jugement en appel est très favorable. 1 an et 8 mois avec sursis. Et même pas d'interdiction de séjour en Indochine. Leur défenseur s'exclame « On voudrait frapper d'une manière impitoyable de jeunes gens coupables d'avoir prélevé simplement des pierres sur un monument abandonné. » Quant à l'écho à la mythe, il écrit « L'instigateur de l'affaire a démontré de grandes capacités d'intelligence et de ténacité. » Moi, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien, non ? Mais Malraux n'est pas reconnaissant. Il ne repart après que quelques mois et revient rapidement pour fonder l'Indochine, un journal qui critique durement le système colonial, de juin à août 25. Puis, en novembre, il recommence avec l'Indochine enchaînée, sous-titré « Journal de rapprochement franco-alamite ». Cette fois, il n'y aura que 29 numéros et il retourne à Paris en février 26. Il n'a que 25 ans et un destin unique l'attend, dans lequel l'Asie jouera un rôle important. 40 ans après cette lamentable épopée, le voilà ministre.
Monsieur André Malraux, ministre d'État chargé des affaires culturelles, est rentré à Paris après un périple en Extrême-Orient. Principales escales au cours de son voyage, New Delhi et Pékin. Reçu personnellement par Mao Tse-tung, Monsieur André Malraux a eu ensuite de longs entretiens avec les dirigeants communistes chinois. Officiellement, Monsieur Malraux était en voyage privé, mais on a confirmé depuis qu'il était porteur d'un message du général de Gaulle au président Mao Tse-tung, qui a fait avec le ministre français le point de la situation internationale.
La Chine, bien qu'il n'y ait que très peu séjourné au fond, tient une place centrale dans plusieurs de ses écrits. La voie royale, dont nous avons parlé, mais aussi la tentation de l'Occident en 25, où la Chine est un cadre pour explorer le dialogue entre cultures à travers des lettres échangées entre un jeune Français en Chine et un jeune Chinois en Europe. Les conquérants, roman de 1928, se passe pendant la Révolution chinoise. D'autres textes qui organisent un dialogue entre les civilisations, comparant les arts et les pensées de l'Orient et de l'Occident. Mais bien sûr, son grand roman asiatique, c'est La condition humaine, situé lui aussi dans ces lieux et durant cette période qui le fascine. En 33, un de plus dans notre série, il obtient la fameuse récompense.
Le prix Goncourt pour 1933 est décerné à Monsieur André Malraux pour son roman La condition humaine.
Il est d'usage, après tout prix littéraire, d'expliquer par quoi et comment le livre qu'on a écrit doit plaire à tous. Je désire qu'il n'y ait aucune équivoque sur le mien. J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur, et de montrer quelques images de la grandeur humaine.
La culture, c'est ce qui fait de l'homme autre chose qu'un accident de l'univers, a-t-il dit. Opposons cette citation à celle, peut-être tirée d'une pièce de théâtre, mais attribuée au nazi Baldur von Schirach, « Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver ». Et pour en terminer avec Malraux, permettez-moi ce souvenir personnel. Françoise Giroux m'avait dit « Il voulait changer le monde, comme on doit le faire quand on a 20 ans ». Mais lui, ça a duré. Riders in the Storm, sur les Doors, les Cavaliers de l'Orage, un nom générique qui va assez bien à nos écrivains, l'émission d'aujourd'hui traite des écrivains qui ont voyagé notamment en Indochine et en Asie. Quelques mots sur certains d'entre eux qui, sans que ce soit vraiment le centre de leur œuvre, ont aussi écrit sur l'Asie. Commençons par l'étonnant anglais Eric Newby, que j'ai eu la chance de rencontrer peu de temps avant sa mort, survenu en 2006. En 1956, il est renvoyé de la maison de mode londonienne où il travaille, et comme si c'était parfaitement naturel, dit alors à sa femme « Je n'ai plus de travail, si nous descendions le Gange en canoë ?» Encore plus aberrant, sa décision soudaine de gravir le Mir Samir, un sommet de plus de 6000 mètres dans l'Hindoukouch, aux confins de l'Afghanistan et du Nouristan, jamais encore vaincu par l'homme. Pourquoi est-ce qu'aberrant ? Parce qu'il n'a pas la moindre expérience de l'alpinisme. Il contacte un ami diplomate, Hugh Carless, qui est supposé parler langue locale, mais qui n'a jamais non plus tenté d'escalader une quelconque montagne. S'apercevant de leur incompétence réciproque, les deux amis se livrent à un bref entraînement dans le Pays de Galles, où ils font le désespoir des moniteurs. Mais rien ne les arrête, et ils partent quand même, avec à la main un manuel explicatif sur les sujets cruciaux comme « Comment utiliser le piolet ?» « Où dresser sa tente ?»« Comment affronter le froid en haute altitude ?» etc. C'est invraisemblable. Il s'avère ensuite que Carless ne parle qu'une sorte de perse antique remontant aux guerres contre Alexandre le Grand, personne ne le comprend. Ils ne savent pas grimper, ils ne peuvent presque pas communiquer avec les gens, mais ils se lancent dans l'aventure avec flegme et désinvolture. Évidemment, ils échouent. Mais Newby en tire un récit hilarant. Il me dira avoir songé à le titrer « Comment Newby et Carless ont failli gravir le Mir Samir ?» Mais il optera plutôt pour « Un petit tour dans l'Hindoukouch que je vous recommande pour sa drôlerie tellement britannique, assez méconnue en France, mais qui sera vendue en 500 000 exemplaires en Grande-Bretagne. » Nous avons commencé le programme tout à l'heure par une phrase qui ouvre le récit aujourd'hui mythique du genevois Nicolas Bouvier, « L'usage du monde ». Pour beaucoup de passionnés de la littérature et du voyage, c'est une référence indispensable. Mais ce statut n'a pas été immédiat, loin de là, puisque Bouvier l'a publié à compte d'auteur. C'est le récit d'un voyage entrepris avec un ami peintre, Thierry Vernet, qui illustrera le récit, à bord d'une Fiat Topolino, l'ancêtre de la Fiat 500, qui devait conduire nos héros vers la Khyber Pass en Afghanistan. Pas de grandiloquence dans ce texte, mais plutôt des portraits attendris de tous ceux croisés sur le chemin en Yougoslavie, en Turquie et en Iran ou au Pakistan. Le voyage, non pas comme un exploit, avec un but vers lequel on tend farouchement, mais comme une dérive douce. Plus tard, beaucoup plus tard, près de 30 ans après ce voyage, Bouvier en racontera la suite plus amère dans « Le poisson scorpion », l'histoire de son séjour de 9 mois à Ceylan, malade, sans ressources, dépressif. Il fera ensuite de longs séjours au Japon, seul puis en famille, ainsi qu'en Chine et en Corée, narré dans « Chroniques japonaises » ou « Journal d'Aran et autres lieux ». Bouvier, c'est le contraire du lyrisme, c'est minimaliste et profondément touchant, essayez. Une phrase ? D'accord. « Le monde comme une eau vous traverse ». Et pour un temps vous prête ses couleurs, puis se retire, et vous place devant le vide que l'on porte en soi, l'espace d'insuffisance central de notre âme, et qu'il faut bien apprendre à côtoyer, à combattre, et qui, paradoxalement, est peut-être notre moteur le plus sûr. De Suisse, nous vint une autre voyageuse plus impérieuse, Ella Maillard. Elle écrivit et voyagea beaucoup dans les années 30, connut le succès, puis fut un peu oubliée, jusqu'à un passage chez Bernard Pivot au début des années 80. Elle fut alors réhabilitée, si j'ose dire, et tout a été republié. Mais ce qui vaut surtout chez elle, c'est l'audace, l'esprit d'aventure, le courage tranquille, beaucoup plus, je trouve, que le style littéraire. Écoutez ces quelques hauts faits. Née en 1903 dans la très bonne société de Genève, elle dispute plusieurs fois le championnat du monde de ski, ainsi que les Jeux olympiques de 1924 à la voile. Elle traverse la Méditerranée jusqu'à Athènes avec un équipage entièrement féminin. Tout ça est déjà très bien, mais le voyage va la révéler à elle-même. Arrivée à Moscou en 1930, elle rentre en traversant le Caucase et tirera de ce voyage son premier livre parmi la jeunesse russe. Puis, en 1932, elle se rend au Turkestan, gagne la chaîne du Tien Shan, les Monts Célestes, découvre les Kirghizes, les Kazakhs, les Ouzbeks, gravit avec des skis très suspects, peu efficaces, une montagne de plus de 5000 mètres. Sa vie prend un sens définitif et elle est admirative de ce qu'elle voit.
L'immensité de l'Asie par rapport à l'Europe, qui est quand même une très petite chose. Et puis, des idées farfelues, se dire, tiens, mais Marco Polo a fait tout ce voyage-là au XIVe siècle, eh bien, pourquoi est-ce que je ne ferais pas ce même voyage et que je continue jusqu'à Pékin ? Et comme la frontière était fermée, il y avait la guerre civile, j'ai dit, bon, ben, si une fois je vais à Pékin, je ferai le voyage, le tronçon qui me manque, dans le sens contraire. Alors, tout ça, c'était des raisons de vivre, quelque chose à faire au jour le jour, en attendant d'avoir des réponses aux questions fondamentales.
Son retour en Europe, seul, avec son sac à dos, à travers l'Asie centrale soviétique, encore agité par la répression, par l'armée rouge, est un périple spectaculaire, inouï à l'époque. Elle filme, elle écrit, et son « Des monts célestes au sable rouge » est un triomphe. En 1934, un grand journal finance son expédition vers le Mandchoukouo, état fantoche créé par les Japonais en Chine, et lui fournit une carte de presse. En février 1935, elle rencontre Peter Fleming, grand reporter pour le Times, agent du MI6 et frère de Ian Fleming, l'auteur de James Bond. Elle se lance avec lui dans un voyage de 6000 km de Pékin jusqu'en Inde à Srinagar qui va durer 7 mois. Ce voyage dans les contrées désertes, inconnues, parfois hostiles, à dos de cheval, de chameau, de yak même, fournira aux deux aventuriers le matière de deux livres, Courrier de Tartarie pour Fleming, Oasis interdite pour Maillard. Fleming, émerveillé par son endurance et sa force vitale, lui dira « Vous auriez pu le faire sans moi, je n'aurais pas pu le faire sans vous ». En 1937, elle traverse l'Inde, l'Afghanistan, l'Iran et la Turquie pour des articles ou des films. Et puis, en 1939, elle part à bord d'une Ford décapotable extrêmement chic et complètement anachronique dans les paysages qu'elle va traverser de Genève à Kaboul avec son amie Anne-Marie Schwarzenbach. Cette femme inlassable deviendra ensuite guide et jusqu'à 80 ans, elle emmènera des petits groupes dans des voyages culturels en Asie. Dans la fiction, qui symbolise le reporter ? Tintin, à mon avis. Ou au début du XXe siècle, peut-être Rouletabille, pour ceux qui s'en souviennent. Mais dans la réalité, c'est Albert Londres, la référence française. C'est d'ailleurs son nom que porte le prix réservé au meilleur reportage de l'année. Ses reportages innombrables sur la guerre de 14, l'enfer du bagne à Cayenne, le Tour de France, les asiles psychiatriques, la Russie soviétique, assurent sa gloire. Porter la plume dans la plaie était sa devise. Les journaux se l'arrachent et un jour, un directeur de rédaction lui reproche de ne pas suivre la ligne du journal. Londres lui répond avec superbe « Monsieur, sachez qu'un reporter ne suit qu'une seule ligne, celle du chemin de fer ». Mais son lien avec l'Asie, c'est hélas sa mort tragique qui le rend primordial. En effet, Albert Londres meurt dans l'incendie du Georges Philippard, paquebot de la Compagnie des Messageries Maritimes, dans la nuit du 15 au 16 mai 1932, au large d'Aden. Les actualités britanniques vont être de voir une des pires tragédies maritimes ces derniers temps. Le luxueux paquebot français Georges Philippard, 17 000 tonnes, a pris feu dans le golfe d'Aden. À l'occasion, hélas, de son tout premier voyage vers le Moyen-Orient. Le capitaine a essayé de faire échouer le navire, pendant que son équipage mobilisé tentait de circonscrire l'incendie. Mais ça ne fonctionna pas. Et c'est finalement encore à 500 km d'Aden qu'il était décidé, malheureusement, d'abandonner le navire. Il revenait de Chine, où il avait effectué une longue enquête qu'il décrivait lui-même mystérieusement comme explosive et lourde de conséquences. Les circonstances de son décès, mort dans l'incendie ou noyé, demeurent imprécises. Lors de l'évacuation du navire, M. Julien, un voisin de cabine d'Albert Londres, dit l'avoir entendu appeler à l'aide, sans doute bloqué dans sa cabine par la fermeture électrique de sa porte que le court-circuit avait bloquée. Un homme d'équipage affirma l'avoir aidé à se hisser hors de sa cabine et l'avoir cru sauvé. Sans doute retomba-t-il dans le brasier ou dans la mer. 54 personnes seulement, si j'ose dire, sur 1000 transportées par le paquebot ou vers la mort. Albert Londres semblait avoir découvert un grand scandale en Chine. Était-il question d'armes, de drogue, d'immixtion bolchévique dans les affaires chinoises ? On ne le saura jamais, car tout son travail disparut avec lui. Certains imaginèrent alors un attentat, le naufrage ayant pour but que d'éliminer Albert Londres. Les hypothèses d'un complot sont renforcées par la mort, quelques jours plus tard, d'un couple d'amis journalistes, Alfred et Suzanne Langvillard, qui voyageaient avec lui sur Georges Philippard. Rescapés de l'incendie, ils sont pris en charge par un avion envoyé par un journal français pour les ramener à Paris le plus vite possible. Mais ils meurent dans l'écrasement de l'avion dans les Alpes. Sinistre coïncidence, hasard ou complot réel, sans doute plutôt effectivement le fait du destin, même si l'idée du meurtre voulu par on ne sait quelle faction contribue à la légende du reporter que seule la mort a pu faire taire. Impossible de terminer l'émission sans parler de Pierre Schoendorfer. Le caméraman rescapé de Dien Bien Phu, le grand cinéaste, fut aussi un écrivain. Et 4 de ses 5 romans ont pour décor l'Asie. L'Adieu au roi, adapté au cinéma par des Américains avec Nick Nolte, et Là-haut, le crabe tambour, et la 317e section portée à l'écran par lui-même.
Le 4 mai 1954, pendant qu'à Genève siège la conférence qui mettra fin à la guerre d'Indochine, 4 Européens et 41 supplétifs cambodgiens évacuent le poste de Luang Ba pour se replier sur Tao Tsai.
Tao Tsai, c'est encore loin ?
Tao Tsai est sans doute déjà tombé.
Non ? À la radio, il disait que...
Vous l'avez eu ?
Demande-lui si Tao Tsai est tombé.
Le poste de Tao Tsai tient toujours.
Les Viet leur ont dit que Dien Bien Phu était tombé. Tao Tsai aussi. Mais ils ont encore entendu tirailler pendant la nuit.
Ce décrochage de 150 km devient un fantastique combat d'arrière-garde où il faut lutter contre la jungle, la mousson, les animaux.
Vous avez une sangsue dans le cou. Laissez-moi faire, il faut leur chauffer les miches à ces salopes, sans ça le sang coule toujours.
Les rivières en crue. Les hommes.
Demain, on planque les blessés, les pactages. On forme un commando léger et on fonce bride abattue.
La charge de la brigade légère.
C'est de la connerie! Si dans 48 heures, ces deux-là sont pas à l'hôpital, ils sont foutus!
Adjudant, Woolston. Nous partons avec les blessés. Coute reste en couverture et c'est tout. C'est un ordre.
Telle est l'impossible bataille que doit mener cette poignée d'hommes, cette section cernée par un ennemi 10 fois plus nombreux, la 317e section.
Avec Jacques Perrin et Bruno Kremer. Pierre Schoendoerffer, donc une œuvre, une vie même, habitée par ses souvenirs indochinois. Le courage, la droiture, la solitude de l'homme face aux grands choix moraux en font la trame émouvante et exaltante, nostalgique et fougueuse. Lisez Schoendoerffer.
L'énorme et vieux ventilateur essayait de brasser l'air lourd d'odeur. On aurait pu palper la peur dans une aussi épaisse moiteur.
Pour la 12e fois de la soirée, Jeanne Gravel l'air emmerdé. 3e bouton de son vestier pour 3 matelots vraiment flippés.
À la grande table de poker, deux as planqués sous la théière, le vicomte lançait les enchères, une main posée sur le revolver.
Macao,
Macao,
Macao. Mélangeait friture et sueur. On sentait monter la terreur, comme s'il y avait plus de pesanteur.
Fred écroulait sur ses bongos pour avoir sniffé trop de coco. Regardait partir sa mado au bras d'un gigantesque travelot.
Soudain, le coup de feu. Le vicomte morfle entre les deux yeux. Pour une fois qu'il avait du jeu, rigole Max en rangeant son feu.
Macao,
Macao,
Macao.
Parodiquement traité par le grand orchestre du Splendide, le dernier morceau de la journée. Deux citations pour nous séparer. La première, bizarrement, est de Gustave Flaubert, qui ne fut pas vraiment un écrivain voyageur, c'est le moins qu'on puisse dire, ne quittant sa Normandie ou Paris qu'en de très rares occasions. Il accomplit un seul long périple vers l'Égypte et Jérusalem. C'est tout. Pourtant, il écrivit cette phrase magnifique, venant d'un auteur comme lui, « J'étais fait pour être empereur de Cochinchine ». Une autre citation, plus personnelle, d'Ella Maillard, à qui je demandais, Candide, si elle n'avait jamais eu peur dans ses périples lointains et solitaires, et qui me répondit, peur ? Mais si vous avez peur, restez chez vous. Un conseil à suivre, mais si on reste chez soi, c'est pour y lire, et écoutez Radio Courtoisie. Merci et à bientôt.